Et justement, cette question, qu'est-ce qui caractérise le fonctionnement d'un couple dans un paysage amoureux très bigarré? Il existe différents styles conjugaux avec des modes de fonctionnement plus ou moins harmonieux. Et depuis quelques années, une équipe de sociologues observe des couples de tous les âges pour tenter de comprendre sur quelles valeurs ils se sont formés, quels sont les rôles et les territoires de chacun, et afin d'identifier la gestion et les sources de conflits. C'est le dossier cet après-midi de la Tête au Carré pour prendre la mesure du couple. Et j'attends dès maintenant vos messages, vos questions et vos témoignages sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science aujourd'hui, des traces d'oxygène terrestre identifiées sur la Lune.
Oui, des fuites régulières de notre atmosphère causées par les vents solaires pourraient se retrouver dans les roches lunaires. Ça fait beaucoup de R. Le cosmochimiste Bernard Marty se retrouve dans un instant avec nous pour nous expliquer pourquoi et comment.
Et puis dans la dernière partie de l'émission, nous retrouverons la science en grand format avec nos confrères de France 5. Stéphanie Texier réalise cette Tête au Carré, préparée par Lucie Sarfati avec Pierre de Certaines.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Quels sont les différents styles conjugaux? C'est donc la question que nous allons nous poser dans quelques minutes avec mes invités Philippe Renaud et Éric Widmer. Bonjour à
tous les deux.
Bonjour. Bienvenue Éric Widmer. Qu'est-ce qui fait qu'un couple résiste mieux qu'un autre après des années et des années de vie partagée?
Eh bien, toute une série d'ingrédients qui se conjuguent de diverses manières selon le style d'interaction des couples. Je dirais donc qu'il n'y a pas de recette unique, mais
il y a des combinaisons.
Une diversité de combinaisons qu'il faut étudier de près.
Philippe Renaud, on peut dire qu'il y a une science du couple aujourd'hui avec des principes universels?
Et oui, on est ici à la Tête au Carré pour parler de la science. Ce ne sont plus que des impressions. Très souvent, c'était des cliniciens qui disaient « j'ai l'impression d'eux ». Le travail d'Éric Widmer avec l'équipe, cette équipe suisse qui suit 1500 couples depuis maintenant 20 ans, nous donne des éléments pour comprendre certains mécanismes. Alors, comme il l'évoque, il n'y a pas une solution unique, mais on commence à comprendre le fonctionnement des couples.
Voilà, cette science du couple, eh bien, on en parle avec vous dans quelques minutes avec les auditeurs qui nous rejoignent dès maintenant. Et à la une de la science, les vents solaires qui balayent sans cesse la Terre et qui emportent avec eux une partie de notre atmosphère. Et figurez-vous que les scientifiques japonais pensent qu'une partie justement des molécules volées à la Terre pourrait se retrouver sur la Lune, dans les roches de surface. Une hypothèse intéressante pour étudier l'histoire de notre atmosphère. Et on en discute avec vous. Bernard Marty, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cosmochimiste, professeur à l'Université de Lorraine. Et pour commenter ses travaux également avec nous en studio, notre confrère Philippe Hénarejos du magazine Ciel et Espace. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Bernard Marty, expliquez-nous un peu par quel mécanisme, d'abord, les molécules de notre atmosphère pourraient se retrouver à l'intérieur des roches lunaires. C'est quand même étrange, non?
Alors, il faut savoir qu'il y a un vent solaire, c'est-à-dire qu'on a des particules du Soleil qui balayent sans arrêt la région terrestre. Et la Terre est protégée par son champ magnétique, donc elles sont déviées. Mais pas complètement, c'est-à-dire qu'il y a une partie du vent solaire qui est entraînée dans la queue de la Terre, sa forme une sorte de queue de particules ionisées solaires, et en même temps ces particules solaires vont ioniser des atomes au sommet de l'atmosphère terrestre et vont les entraîner avec elles. Donc un atome, quand il est neutre, il bouge pas. Dès qu'il est ionisé, qu'il y a un champ magnétique dans le coin, il va suivre le champ magnétique. Et le fait que cette poche en fait de champ magnétique de matière ionisée est asymétrique, c'est-à-dire qu'elle est plus longue derrière la Terre, hein, elle est entraînée par le vent solaire, fait que la Lune passe régulièrement dans cette queue. Et à ce moment-là, eh bien, on peut imaginer, c'est un professeur japonais d'ailleurs qui avait imaginé ça il y a une dizaine d'années, que des particules de l'atmosphère terrestre pouvaient elles-mêmes être entraînées, se retrouver implantées à la surface lunaire.
Quels ont été les nouveaux indices de ces chercheurs japonais pour réitérer l'hypothèse au final?
Mais ils ont essayé de le mesurer, c'est-à-dire qu'ils ont envoyé un satellite, enfin c'est un satellite pas spécialement pour cette manip, mais qui était envoyé, et qui mesure justement les ions à la fois du vent solaire, mais également émis par la Terre. Et ils ont fait des mesures dans un emplacement qui correspond à peu près au passage là où se situe la Lune lorsqu'elle passe dans cette queue de plasma. Et ils ont obtenu des données qui semblent indiquer qu'effectivement l'adhésion d'oxygène qui aurait une énergie qui correspondrait à celle de l'oxygène de l'atmosphère terrestre entraînée par le vent solaire.
Philippe Hénarejos. Je croyais que Philippe Hénarejos voulait réagir.
Oui, j'ai une petite question. Est-ce qu'on retrouve finalement ces atomes d'oxygène dans les échantillons lunaires qui ont été ramenés de la Lune par les astronautes des missions Apollo?
Effectivement, il y a eu des les mesures de fait de la composition isotopique de l'oxygène déposée en surface dans les échantillons lunaires, qui ont été faits d'ailleurs ici à Nancy, dans ce laboratoire, et qui montrent qu'on a une composition isotopique, c'est-à-dire l'isotope, c'est un peu l'ADN de la matière, on a une composition isotopique dans cet oxygène qui est compatible avec celle que l'on s'attend à avoir au sommet de l'atmosphère terrestre. Donc on retrouve quand même un indice de filiation qui est assez fort entre l'oxygène trouvé sur la Lune et le sommet de l'atmosphère terrestre.
Quelle quantité de matière ça représente à chaque passage de la Lune dans le sillage de la Terre ?
Oh, c'est extrêmement faible. C'est comparé, si vous voulez, à l'oxygène qui est lui-même, qui compose les roches et les sols lunaires, c'est vraiment extrêmement faible. C'est quelques milliers d'atomes qui sont implantés dans une couche de quelques, milliardièmes de millimètres. Par contre, avec des instruments très très perfectionnés, comme des sondes ioniques, on arrive à repérer ces atomes, à faire des profils de profondeur, à creuser dans les surfaces et à repérer ces atomes.
Philippe.
Oui, alors je me demandais, moi, est-ce que cet oxygène terrestre arrivé sur la Lune va nous en dire plus sur l'origine de la Lune ou au contraire sur l'histoire de l'atmosphère terrestre ?
C'est la deuxième solution, en fait, parce que sur l'origine de la Lune, bon, elle s'est formée il y a 4,5 milliards d'années, ouais. Il y a des modèles pour ça. Mais ce que l'on voit, c'est plutôt l'évolution de l'atmosphère terrestre. C'est-à-dire, ce que l'on a, c'est peut-être, alors c'est pas complètement prouvé, mais il y a de bonnes chances que ce soit des bouts d'atmosphère qui ont été implantés à différentes périodes de l'histoire terrestre.
Mais on peut le dater, donc, ça, ou pas ? Est-ce qu'on peut le dater ou pas ?
Ça, c'est un peu le grand problème. C'est que ce sont des dépôts dans des sols lunaires. Les sols eux-mêmes, ils sont soumis à ce qu'on appelle un jardinage. C'est assez joli comme mot. Mais en fait, un sol ne reste pas à la surface de la Lune pendant des milliards d'années. Il est remué par les impacts qui se produisent à la Lune. Et de temps en temps, un sol est exposé, de temps en temps, il n'est pas. Donc c'est très difficile de savoir quand le sol est exposé, quand il a pu recevoir les atomes atmosphériques de la Terre.
Vous voulez dire que c'est peut-être sur la Lune qu'on trouvera la réponse à savoir quand est-ce que l'oxygène est apparu dans l'atmosphère terrestre ?
Ça, on le sait, je dirais, on a plus d'indices qui nous permettent de savoir d'après l'analyse des anciennes roches terrestres. Et je pense que maintenant, on est à peu près bien d'accord que l'oxygène libre est apparu il y a 2,3 milliards d'années. Avant, il n'y en avait pas. Et cet oxygène, ce que l'on voit maintenant implanté dans la Lune, en fait, c'est un message biogénique hein, de la biosphère terrestre qu'on retrouve sur la Lune. Donc, poétiquement, c'est déjà assez intéressant. Par contre, ça va pas tellement nous apporter grand-chose sur l'oxygénation de la Terre, mais ça peut nous apporter des choses sur l'évolution de l'atmosphère pour d'autres éléments au cours des temps. Le problème, comme on disait, c'est quand même d'arriver à dater ces dépôts. Quoi.
C'est toute la difficulté pour retracer cette histoire. Philippe
Oui, en effet, parce que sur la Lune, contrairement à la Terre, il n'y a pas vraiment de strates. Alors, il y a bien sûr des strates de lave dans les mers lunaires, puisqu'il y a eu des épanchements successifs. C'est à peu près les seuls que je vois, là, comme ça, de tête. Sur Terre, par exemple, on va fouiller les glaces de l'Antarctique, et on sait qu'année après année, il y a des petites bulles d'air qui sont prisonnières dedans. Et on peut dater. Là, sur la Lune, effectivement, il y a ce jardinage permanent par les impacts qui remue tout ça.
Oui.
Donc on imagine que ça doit rester malgré tout sur des roches en surface. Et que donc, si on creuse, on va avoir du mal à trouver cet oxygène de la Terre, puisque ce sont des roches volcaniques lunaires qui sont beaucoup plus anciennes à une époque où il n'y avait pas d'oxygène sur Terre. C'est bien ça.
Oui, c'est ça, oui.
Une question plus large pour terminer. Est-ce qu'on peut imaginer le même mécanisme entre d'autres systèmes planètes et lunes, comme des géantes gazeuses, par exemple ?
Oui, on peut. Enfin, cette étude est très intéressante parce qu'elle nous indique aussi que des transferts de matériel, dont certains produits par la vie, hein, comme l'oxygène, sont possibles entre différents corps planétaires. Bon, on le savait déjà pour le Soleil et les planètes, mais là, on peut avoir une évidence que c'est le cas, effectivement. Donc ça ouvre des perspectives très intéressantes, effectivement, de transfert de matière entre différents corps planétaires, notamment entre planètes et satellites.
On peut imaginer des passages de matière organique ?
Ça, c'est beaucoup plus compliqué, sans doute pas, parce que les processus d'ionisation, ça implique des énergies assez élevées et qui ont tendance à casser les molécules organiques. Donc, lors de la, si vous voulez, d'ionisation, de la préparation, du processing de ces particules, il y a vraisemblablement la matière organique qui est détruite.
Donc, oui. La vie ne pourrait pas sauter d'une planète à une lune comme ça.
Un petit saute-mouton de vie, ça serait drôle. Hein.
ça, ça paraît très difficile.
Merci.
Ça paraît impossible.
Merci en tout cas Bernard Marty pour vos explications. On trouve ces infos dans Ciel et Espace, Philippe, avec cette publication qui fait la une de beaucoup de journaux. Hein,
pas encore, on y travaille parce que justement c'est assez fin. Il faut arriver à remettre le contexte. Qu'est-ce que ça change dans justement la compréhension de l'histoire de la Lune? Qu'est-ce que ça change dans l'histoire de la Terre? Et surtout, comment vérifier cette hypothèse? Ça reste une hypothèse qui est très intéressante, mais j'imagine comme ça, en première approximation, qu'il faudrait creuser assez profond dans le sol de la Lune pour voir si on retrouve ou non cette trace d'atmosphère. Et si c'est non, ça pourrait dire que c'est vrai, que l'hypothèse est bonne.
Et pour creuser, il faudrait renvoyer des bons hommes parce que les machines nous font difficilement.
Il y a déjà des bons hommes qui y sont allés, ils ont tenté de creuser, ils se sont échinés, ils sont allés à 1,50 m de profondeur. C'est compliqué. Reste malgré tout dans la couche qui est labourée par le jardinage. Mmh. Donc, c'est pas assez profond.
Merci beaucoup à vous, Bernard Marty. Merci, Axel. Et puis, on se retrouve très prochainement, Philippe Hénarejos. À bientôt. Et puis en bref, dans le reste de l'actualité, le plus vieux cimetière d'esclaves de la traite négrière mis au jour. C'est la découverte que semble avoir réalisée une équipe internationale d'archéologues. Ainsi, 14 corps ont été retrouvés au nord des îles Canaries, le plus ancien ayant été inhumé vers 1470. Les analyses génétiques et morphologiques ont révélé des ascendances nord-africaines et subsahariennes. Et surtout ont dévoilé des traumatismes typiques d'un labeur physique très intense. Les chercheurs ont déduit que ces hommes étaient probablement des esclaves au service des Espagnols et des Portugais dans des champs de canne à sucre et qu'ils ont été enterré dans le plus vieux cimetière d'esclaves exploité par les Occidentaux, découvert donc à ce jour. Les chimpanzés tués parfois mangent leur ancien tyran, c'est ce qu'ont observé des anthropologues dans un groupe de primates au Sénégal. Foudouko, c'était le chimpanzé alpha pendant plusieurs années, et puis il est tombé en disgrâce, il a été exilé, et lorsqu'il a tenté de réintégrer la hiérarchie de sa communauté, eh bien ses congénères l'ont violemment assassiné à coups de pierre et de bâton, et puis fait rare, certains l'ont en partie dévoré. Selon les scientifiques, cette extrême violence chez les chimpanzés serait due au faible nombre de femelles dans le groupe. Et puis les capacités anormales des langues de grenouilles, enfin expliquées, des chercheurs américains de l'Institut technologique de Géorgie ont mis fin à la comparaison entre la langue de ces amphibiens et le rouleau de scotch, le mécanisme étant bien plus complexe. Lorsqu'elle attrape un insecte, en effet, la grenouille utilise la très grande souplesse de sa langue, 10 fois supérieure à la nôtre, pour envelopper sa proie et capter son inertie. La salive du batracien recouvre alors l'insecte et puis celui-ci remue, et plus le liquide se fige, la proie est alors engluée sur la langue jusqu'à ce qu'elle se retrouve dans la bouche de la grenouille. Allez, nous allons parler du couple dans un instant.
Together from now until
Hold On Together, The Excitements.
La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Et la mesure du couple, c'est le dossier cet après-midi de l'émission avec mes invités Éric Widmer et Philippe Bruneau. Éric Widmer, vous êtes professeur de sociologie à l'Université de Genève et co-directeur donc de ce programme de recherche sur les parcours de vie. Vous avez publié en 2008 « Mesures et démesures du couple » aux éditions Bayou. Il faudrait une nouvelle édition maintenant quand même, parce que vous avez aussi un peu plus de recul par rapport à la question.
Ben oui, on attend ouais. Que ça. Hein. On va faire une quatrième vague d'interviews dont on parlera peut-être début mars. Et je pense que ça sera un bon moment pour réactualiser.
Absolument. Philippe Bruneau, vous êtes psychiatre, sexologue, anthropologue. On vous retrouve tous les mois dans l'émission. Alors, vous avez publié « Lettres d'amour, secret des amants ». Mais là, pour quoi, la Saint-Valentin qu'on va fêter dans quelques jours?
Oui, c'était il n'y a pas longtemps. Et c'est vrai que c'est un moyen certainement... on n'a jamais parlé avec Eric. C'est un moyen peut-être de resserrement du couple, puisqu'on se rend compte que les lettres d'amour ont... en général, elle a toujours été écrite au début des couples, lorsqu'on ne vivait pas ensemble. Et souvent, on arrête parce qu'on vit ensemble. Ben, c'est peut-être un moyen de renforcer le couple, on en parlera.
Éric Widmer, donc cette mesure du couple, ce sont des années d'enquête que vous avez menées avec votre équipe hein, pour identifier ce qui caractérise le fonctionnement des différents types de couples. Est-ce que ces dernières décennies, avec les changements de société observés, ont entraîné justement là aussi des changements notoires dans la vie des couples?
Ah oui, nos études ont montré quand même une accentuation d'une part ce qu'on pourrait appeler l'individualisme conjugal, c'est-à-dire...
Comment ça se traduit
ouais. C'est-à-dire que finalement le couple est tout aussi important qu'avant, mais il prend sens par rapport à un projet individuel. Donc on ne cherche plus à se mettre en couple pour créer une famille, ne faire qu'un et se mettre en quelque sorte au service d'un collectif, mais comme un moyen de développement personnel. Et ça c'est une tendance quand même... Qui s'est bien marqué ces 30 dernières années, depuis peut-être mes 68.
Quelles sont les conséquences d'ailleurs de cela? Est-ce que c'est pas aussi une augmentation du nombre de divorces?
Alors, ça a deux conséquences un peu paradoxales, je dirais. D'une part, c'est de faire augmenter les attentes vis-à-vis du couple. Donc on est beaucoup plus exigeant que, disons, pour faire simple, dans les années 50. On demande plus au couple, notamment en matière de... réussite émotionnelle, de sexualité, ces dimensions relationnelles. Et puis d'autre part, comme les attentes ont augmenté, il y a une tendance à recourir plus rapidement à la séparation et au divorce.
Ouais. Philippe Bruneau, alors les changements du couple, depuis quoi les années 60? C'est-à-dire quoi? Depuis mai 68 au fond?
Depuis les 50 dernières années. Enfin, c'est pas mai 68, c'est les années 70, et les sociologues l'ont très bien montré, c'est la transition entre la société traditionnelle et la société moderne. Où le phénomène essentiel pour moi, c'est l'avènement du sujet. Ce que les psychanalystes appellent la subjectivation, et ce qui donne ce que Eric vient d'évoquer, c'est-à-dire qu'il y a plus d'individualisme. Oui et non, je trouve que dans ce terme, il y a plutôt, le couple est aujourd'hui fait de deux sujets, c'est-à-dire je suis un sujet, j'ai une trajectoire de vie, avec mes désirs propres, et notamment dans le couple hétéro, la femme était peu un sujet dans la société traditionnelle, la trajectoire du chef de famille, aujourd'hui, c'est fait de deux sujets, et la vie de deux sujets dans un cadre qui est moins fermé, comme le couple traditionnel dont on pouvait pas sortir que par le divorce, eh bien rend la structure beaucoup plus fragile. Pas forcément, elle est peut-être plus intéressante aussi, parce que les sujets existent à part entière, et il va falloir trouver peut-être des styles conjugaux, on va en parler, il va falloir trouver une forme du couple, arriver à trouver une façon, moi je crois qu'on doit... Tous les couples doivent inventer la forme de leur couple.
Ouais, mais est-ce que justement, Philippe, c'est pas la domination masculine qui faisait qu'autrefois, les couples ne faisaient qu'un? Parce qu'évidemment, c'était l'homme qui dominait.
Exact. Il ne faisait qu'un homme donnant la directive. C'était assez vrai. Ou il pouvait y avoir tout simplement une femme donnant la directive. On disait qu'il y avait des femmes fortes.
Éric Widmer.
Oui, je dirais que la domination masculine, qui n'a d'ailleurs pas totalement disparu,
bien
au contraire, faisait partie d'un ensemble de caractéristiques de la famille qui, d'une certaine manière, modérait les attentes, la rendait certainement moins stimulante, mais peut-être aussi plus stable.
Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire la mise en couple pour un sociologue, Éric Widmer? Et puis, quelles questions vous vous posez au travers de cette enquête au long cours là, qu'on a décrit un petit peu tout à l'heure dans la méthodologie?
Alors, pour un sociologue, la mise en couple, c'est vraiment table sur la question de la création d'une culture commune à partir de deux cultures individuelles. Les conjoints proviennent de deux milieux familiaux, amicaux, séparés, différents. Mmh. Ils doivent se mettre ensemble, réussir à créer un certain nombre de normes et de valeurs communes qui leur permettront ensuite de faire face à ces séismes que sont l'arrivée des enfants, éventuellement les problèmes professionnels, les maladies, la mise à la retraite. Si cette culture commune ne se crée pas, toutes ces étapes-là seront plus compliquées.
Oui.
Et les sociologues, quand ils étudient la formation du couple, eh bien cherchent à voir comment cette culture se construit en fonction des héritages sociaux, économiques, éducatif des deux partenaires.
Oui. Alors ça se base sur des critères particuliers justement, cette mise et cette mesure du couple ?
Essentiellement sur des critères de ce que les sociologues appellent l'homogamie ou l'hétérogamie, c'est-à-dire une comparaison des milieux d'origine, une comparaison des orientations religieuses, politiques des deux conjoints, une comparaison des origines nationales, éventuellement des personnes, de manière à voir comment ces différents paramètres ensuite influencent cette constitution de cette culture commune.
Je vous propose une vision, évidemment, elle est subjective, mais c'est celle de Fabrice Lucchini autour du couple, et c'était chez Mireille Dumas.
Comme j'ai été coursier très longtemps et que je livrais des plats chauds chez les riches, chez les pauvres, chez les travelots, c'est là que j'ai rencontré Michel Berger et France Gall. J'ai apporté des pizzas et j'ai vu France Gall et Michel Berger. Et ils étaient en couple, c'était très étrange.
Ah, ça a dû vous fasciner, justement.
Mais oui, parce qu'ils se promenaient dans l'appartement bras dessus, bras dessous. C'est très bizarre. Le couple est une chose fascinante parce que c'est pour les autres aussi. On indique aux autres qu'on est ensemble. Ça ne peut pas fonctionner dans le face-à-face sans les amis. D'où l'horreur des couples en amis en vacances. Ce qui est horrible dans le couple, c'est que plus personne n'est sexualisé. On va chez qui ? On va chez les intels. Tu sais qu'il ne se passera rien. Hein ? Il ne se passera rien. On va en couple, on bouffe. Qu'est-ce que tu as vu dernièrement ? Alors là, moi, je meurs. Là, hein.
Voilà. Alors, il y en avait 6 minutes. Hein. On aurait pu vous passer l'intégralité. Et alors, c'est intéressant ce que dit Lucchini, justement, Eric Widmer, parce qu'il dit qu'on fait couple aux yeux des autres, finalement. Donc, il y a cette relation à trois que vous décrivez vous-même.
Hein. Ça, le couple, c'est une affaire à trois entre les projets des deux partenaires et puis la société, ses ressources et ses contraintes, et notamment comme dans l'extrait qui vient de nous être présenté, l'importance de la parenté et des amis dont notre enquête a révélé qu'elle était vraiment cruciale.
Ouais.
Donc tout ne se joue pas dans la dynamique interne au couple, mais beaucoup se joue dans le rapport du couple à son environnement.
Alors ça, c'est très important, Philippe Bourneau, parce qu'on devient un couple aux yeux des autres. C'est finalement les autres qui nous reconnaissent en tant que couple, non ?
Et ça, c'est quelque chose de terrible, parce que c'est l'image que l'on a du couple, mais l'image que l'on a à la tête, dans la tête, pardon, de notre propre couple. Mmh. C'est d'ailleurs l'idéal du couple, le nombre de gens qui peuvent pas faire le deuil de l'idéal du couple qu'ils ont alors qu'ils vivent pas la même chose. Moi qui vois vraiment beaucoup de couples, hein, c'est la majeure partie de mon activité.
Ils viennent ensemble vous voir, hein.
Moi je les vois, je les vois de cette façon-là. La plupart des couples qui sont mal vont très souvent dire ceci, exactement ce que vous venez d'évoquer, Mathieu. Pour tous nos amis, pour tous les gens, nous sommes le couple modèle, le couple parfait, et vous ne pouvez pas savoir ce que nous vivons.
Ouais.
Et c'est ce décalage entre l'image que l'on donne, l'image que l'on aimerait avoir, parce que c'est aussi ce couple idéal que voient les autres, c'est aussi celui que j'ai dans la tête. Et pourquoi je n'y parviens pas ? Et c'est là le mystère, alors on ne va pas le résoudre aujourd'hui, mais y a à réfléchir pourquoi le couple... Moi je crois aujourd'hui que le couple est le premier objet d'inquiétude pour tous nos contemporains. On parle en France aujourd'hui.
Non, mais c'est terrifiant, quand même. Être en couple, c'est quand même une chose formidable.
Mais le premier objet d'inquiétude, parce qu'on se dit, je vais me permettre de dire, mourir seul. C'est-à-dire, qu'est-ce que mon couple va perdurer ? Ou si je ne suis pas en couple, est-ce que je vais faire couple, selon mon idéal ? Et quelle image je vais donner ? Est-ce que ça va ressembler ? Aujourd'hui, il y a surtout souvent un décalage entre un couple qui est médiatisé, comme on a une image aussi d'un idéal de la sexualité, et puis ce que je vis. C'est-à-dire que ce décalage, on est quand même beaucoup dans une idée très idéalisée, quand on voyait les Brandolina qui sont... C'est-à-dire des
espèces de... Vous voyez comment ça a terminé,
people, oui. Mais voilà.
Ouais. Éric Widmer, vous percevez vraiment dans vos enquêtes cette angoisse du couple, d'abord aux yeux des autres, et puis dans cette projection, dans ces questions posées sur l'avenir?
Oui, quand on pose aux personnes la question de savoir quelle est la chose qu'il faut vraiment réussir pour réussir votre vie, eh bien, paradoxalement, c'est pas la réussite professionnelle qui vient d'abord, c'est la réussite du couple. Et dans la situation d'incertitude, de risque actuelle, eh bien, ça met une forte pression sur les personnes.
J'ai retrouvé sous mes angles de la terre celle d'un endroit où je n'ai jamais été. Le plafond est étoile, le sol jardin. Des cascades dans mes cheveux souffraient un chemin. C'est un royaume où règne la musique et le silence. Il me fut entièrement légué, oui, je pense. J'imagine que c'est bien réel. J'ai la saison que je veux quand je respire. Apparaissent mes voeux sans que je n'ai pu les dire. Je peux tout revivre et tout transformer.
Témoin, il était de mon devoir de t'avertir d'une chose, Pierre. L'amour diminue avec le temps.
C'est... Alors, Marc, en tant qu'ami, il est de mon devoir de te dire que l'amour grandit avec le temps. Si, attends. Tiens. Lis ça.
L'amour ne s'altère pas en heures ou en semaines, mais survit jusqu'à la pointe de la fin des temps. Et si ceci est faux et qu'on me le prouve... Je n'ai jamais écrit et personne n'a jamais aimé.
I never it, nor no man ever loved.
C'est qui le con qui a écrit ça?
William Shakespeare.
Voilà, L'amour dure 3 ans. C'est ce film sorti en 2012 pour parler du couple cet après-midi avec Philippe Bruno et Éric Widmer. Alors, est-ce que scientifiquement, il y a des choses intéressantes justement par rapport à la durée d'une vie à deux, vous qui avez quand même un recul important sur des couples qui ont dépassé 15, 20 ans?
Oui, c'est peut-être moins la durée, selon notre étude, que le passage d'événements critiques ou de transitions importantes qui a un impact sur le fonctionnement du couple. Hein. Oui. En particulier, l'arrivée du premier enfant signifie une recomposition des relations conjugales, davantage de fermeture, davantage de centration sur le couple, des relations plus inégales entre hommes et femmes, notamment du point de vue de la division du travail domestique et du travail professionnel. Et tous ces éléments-là donnent lieu à un sentiment conjugal modifié, qu'il arrive 1 an après la mise en couple ou 10 ans après la mise en couple. Donc, selon notre étude, c'est vraiment davantage ces moments de transition qui jouent que le pur effet mécanique de la durée.
Philippe Bruno.
Moi, je reviens sur le terme, d'ailleurs, « l'amour dure 3 ans », qui est une affirmation de Beck Bédé, qui est pas très juste, il a arrangé un petit peu ça. Mais oui, il y a quand même une idée, pour tout le monde, qu'il y a un temps, un premier temps du couple, qui est toujours mieux, d'ailleurs, que le reste du couple. Or, la grosse difficulté, je crois, qu'ont les couples aujourd'hui, quel qu'il soit, quelle orientation qu'il y ait, quelque forme qu'ils ont, c'est que aujourd'hui, en France, on ne cherche pas à faire un couple amoureux. Alors quand je dis ça, les gens me disent « mais si, je veux ». Non, la plupart des gens cherchent à faire un couple passionnel. Et ensuite, on est désespéré parce qu'il n'y a pas les éléments de la passion que j'ai connue quand je t'ai rencontré. Mais putain, qu'est-ce que c'était bien ! De quelle façon ? Ben, on se découvrait, donc on a moins à découvrir. Mais l'excitation que donne la passion, on ne la retrouve pas. Alors ça, c'est un des secrets, moi je dirais, dans les accompagnements de couple. Je ne parle même pas de thérapie. Je crois qu'il faut, et pour tous les gens qui écoutent, et tout le monde est confronté à cette idée de vivre un couple de longue durée, passionnel, c'est pas possible. Il faut régulièrement, moi je crois, refaire une rencontre comme au premier jour. Pourquoi pas s'écrire des lettres d'amour, pourquoi pas se retrouver, mais il faut même trouver des moyens que ça recommence comme au début. Et vraiment, ça peut repartir.
Ouais. Est-ce que les couples qui n'habitent pas ensemble sont des couples plus durables, Éric Widmer, justement pour, instaurer une autre façon de vivre à deux?
Non.
Le living together apart, dont parlent les Anglais?
Non, ces couples-là sont statistiquement plus faibles ou moins durables.
Ah bon ?
Moins durables que les couples qui vivent ensemble, parce que la vie est quand même plus compliquée. Il y a des déplacements qui sont plus importants. Il y a une gestion du quotidien, spécialement dans le cas où il y a des enfants, qui est terriblement compliquée du point de vue de la coordination.
Il y a peut-être aussi
des opportunités en termes
de rencontres.
Oui. Plus favorable que dans les couples sont co-résidents.
Ce que l'on fait, tiens, puisque tu as très bien connu Willy Pasini, puisque tu habites à Genève, mais Willy racontait toujours l'histoire, et on en a tous vu.
Excusez-nous, mais qui est Willy Pasini,
l'un des grands spécialistes du couple, c'est un des fondateurs de la sexologie en Europe, et Willy racontait, il suivait un couple à Genève, et il s'entendait très mal, et il les a suivis pendant longtemps, ils ne sont pas arrivés à bien s'entendre, et puis cette femme revient 5 ou 10 ans plus tard, elle revient le voir, il demande comment va le couple et on va très bien. J'habite à New York, il continue à habiter à Genève.
Ça, c'est une bonne solution, effectivement, pour ne pas se lasser. Pauline dit, le couple est la bouée de sauvetage pour guérir des moments difficiles de la vie, le pilier lors des heureux événements. Fraîchement maman, écrit-elle depuis quelques jours. Je constate que le mélange de mon ami et moi est la plus belle symbiose que le couple réalise dans une vie. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à Pauline, à Éric Widmer?
Je suis absolument d'accord avec ce constat. Il est vrai que sur toute une série de critères de longévité de la vie, de qualité de la vie, les gens qui sont en couple sont avantagés par rapport à ceux qui vivent seuls. Simplement, c'est qu'une partie du tableau, je dirais, puisque le couple peut aussi constituer finalement un enfer. une situation, notamment pour les couples en rupture, qui, si elle perdure, donne lieu à de la violence conjugale, à des problèmes psychologiques importants, etc., etc.
Stéphanie nous dit, on dit qu'il y a des couples complémentaires et des couples supplémentaires. Mon mari et moi formons un couple complémentaire. Nous sommes très différents l'un de l'autre. Nous nous complétons, mais que c'est fatigant de toujours se battre pour se faire comprendre de l'autre qui ne voit pas du tout les mêmes choses. Alors, entrons dans le cœur justement de vos travaux et le cœur du livre, parce que cette enquête donc, qui a commencé en 1998, elle propose cinq principes, cinq modèles, on va dire, de conjugalité.
Absolument, basé sur donc une grande enquête statistique fondée sur 1534 couples suivis sur 20 ans, avec l'interview à la fois de l'homme et de la femme. Il s'agit malheureusement uniquement de couples hétérosexuels pour des questions de représentativité statistique. Une enquête qui a été rendue possible par un grand programme de recherche sur les parcours de vie, LIVES, sans lequel une telle entreprise aurait été chose absolument impossible. Alors, cette enquête met en avant cinq grands styles d'interaction, donc fondés sur des critères statistiques. Est-ce qu'il faut... Je les décris.
Allez,
ou
on va les passer en vue rapidement.
Rapidement. Donc un modèle associatif, 29% des couples.
Le plus représentatif.
Le plus représenté, absolument. Particulièrement présent dans les jeunes générations, particulièrement présent dans les couples avant les enfants.
Qu'est-ce qui le caractérise,
alors,
ce couple?
Alors, une centration, disons, sur l'idée que le couple est au service du développement de l'individu. Sur l'idée que la dynamique de couple, c'est essentiellement une dynamique de négociation permanente des droits et orientations individuelles. Donc rien n'est acquis pour le couple. Tous négocient entre les partenaires concernant la gestion de l'argent, par exemple, les sorties, les devoirs des uns et des autres au quotidien. Un couple très ouvert sur l'extérieur, très sensible aux amis, à la parenté, très très désireux de s'intégrer dans la communauté, avec une grande égalité finalement entre l'homme et la femme. Donc un désir d'égalité du point de vue de la division du travail domestique, du soutien aux enfants, etc.
Alors, c'est le couple associatif.
C'est le couple associatif.
Ouais, voilà. Alors, les quatre autres, rapidement.
Alors, j'irai vraiment sur l'inverse.
Ouais.
Un couple bastion, très fermé, très traditionnel. L'homme est actif professionnellement, la femme est centrée sur la maison et les enfants. Fondé sur l'idée que le nous-famille, c'est-à-dire le groupe familial, doit prendre le dessus sur le couple. Le couple ne fait sens que s'il contribue à la dynamique familiale. Et le jeu individuel, les projets individuels, si vous voulez, eux-mêmes sont rapportés à la dynamique de couple et à la dynamique familiale, n'ont pas de sens en eux-mêmes. Donc sur les trois critères que j'ai déclinés tout à l'heure, la fermeture du couple, son orientation fusionnelle ou individuelle, et puis l'égalité entre les partenaires, on a là affaire à deux modèles qui sont opposés l'un à l'autre.
Association et bastion. Et puis les trois autres
Alors cocon, une version modernisée du bastion. Fermeture, fusion, mais égalité entre les partenaires. Compagnonnage, beaucoup de fusion, beaucoup d'activités collectives, mais avec une égalité très forte. Et alors, une ouverture sur l'environnement extérieur très très valorisé. Et puis finalement, le type de couple dont on a le plus de mal à faire façon, c'est ce couple parallèle, où on a affaire à un couple très fermé sur lui-même, ne valorisant pas du tout les relations avec la parenté, les amis, l'environnement, l'entourage. Les deux conjoints sont très individualistes, et puis il y a de fortes inégalités entre hommes et femmes.
Voilà, cinq modèles que vous retrouvez régulièrement dans votre cabinet, Philippe Bourdon.
Alors, c'est quelque chose qu'on est en train de faire avec Eric, c'est l'idée maintenant d'essayer de mettre en pratique ce travail scientifique. Moi, je voudrais souligner en un mot que aujourd'hui, aussi bien les psychothérapeutes savent ce qui se passe dans la relation à deux. Ça a été théorisé par la psychanalyse, par des formes de psychothérapie. Mais on ne sait pas ce qui se passe dans le couple. C'est le seul travail, ce très beau travail que Eric et son équipe font depuis 20 ans, c'est le seul travail scientifique qui permet de comprendre comment fonctionnent les couples. Parce qu'on a mis tout ça dans une machine, et puis la machine dit, tiens, mais il y a des individualités. Et on va trouver, peut-être qu'on en parlera, ces deux formes qui sont majoritaires aujourd'hui, association, compagnonnage, et on va se rendre compte, sur les 20 ans de travail, que certaines sont plus résistantes à la séparation, et qu'en fait, il y a peut-être des éléments qui vont nous aider pour la pérennité du couple, ce que tout le monde cherche.
Satellite's gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. Satellite of love. Satellite's gone way up to Mars. Soon it'll be filled with park and cars. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. You've been bold with Harry, Mark, and John. Monday and Tuesday, Wednesday through Thursday with Harry, Mark, and John. Satellite's gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. Watched it for a little while. I love to watch things on TV. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love.
Satellite of Love, et c'est Lou Reed sur France Inter dans cette émission consacrée au modèle du couple avec Eric Widmer, sociologue, et Philippe Bruno, psychiatre et sexologue, et vos messages sur franceinter.fr. Allez, dernière illustration justement de notre dossier aujourd'hui avec ce film L'économie du couple qui est sorti mais il n'y a pas très longtemps.
En gros, tu m'expliques que parce que t'es propriétaire, t'es aussi propriétaire des travaux. C'est ça que tu m'expliques. Tu sais quoi, c'est normal que tu penses comme ça. Tous les gens qui sont nés avec du pognon pensent exactement comme ça. C'est faux que t'es né avec du pognon? C'est faux que t'as acheté cet appartement avec l'argent de tes parents?
Mais putain, mais c'est...
Mais c'est faux!
C'est qui paye le crédit tous les mois? C'est toi, peut-être? C'est moi! C'est moi qui le paye tous les mois parce que je bosse! Les filles, vous venez? Alors oui, ok, ok, j'ai pris l'argent. Mes parents m'ont donné de l'argent. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Que je refuse? Ça t'a pas dérangé à l'époque, hein?
Mais c'est quoi le rapport? C'est pas moi qui ai un problème pathologique avec ma famille, c'est toi!
Moi,
c'est
j'ai
toi.
Un...
Mais
moi...
oui, regarde, tu peux rien faire sans ta mère,
moi, j'ai un problème pathologique avec ma famille?
Mais oui!
Mais putain, mais t'es où, toi? Ma mère, elle est là parce que t'es incapable de t'occuper des filles! Chaque fois que je te demande de le faire, tu n'y vas pas, même quand
c'est
tu te rappelles.
C'est archi faux.
Heureusement que ma mère, elle est là. Elle est où, la tienne?
Mais c'est quoi le rapport? Pourquoi tu parles de ma mère maintenant?
Ça nous dérange.
C'est
pas
quoi le rapport?
C'est quoi le rapport?
Elle t'emmerde, ma mère!
Voilà, petite crise hein, au sein donc, de ce couple, l'économie du couple. Ça se passe comme ça des fois dans votre cabinet, Philippe Bruno?
Bien
pas
sûr.
C'est
bien,
vrai?
Mais bien entendu.
Non, mais vraiment?
Ça se passe dans les cabinets quelquefois comme dans. Alors, l'intérêt dans un cabinet pour quelqu'un qui suit des couples, c'est qu'il y a un tiers qui peut. Soit intervenir, soit permettre aux couples de dialoguer alors qu'ils ne font pas de la même façon chez eux.
Oui. Alors justement, il faut beaucoup dialoguer ou pas? Alors est-ce que ça résout les problèmes au fond?
Alors les modèles que propose.
Ou est-ce qu'il vaut pas mieux changer de partenaire carrément?
Oh ben ça c'est là je me permets pas en tant que thérapeute de couple, je ne donne jamais d'orientation. Mais par contre, les modèles que développe Eric est passionnant parce que ça montre que les couples, le couple association par exemple, dans lequel il y a une négociation permanente, c'est signe de modernité. Nos grands-parents ne négociaient pas puisqu'il y avait un des deux qui dominait, il y avait quelquefois une femme forte. Oui, il y a plus d'égalité, mais ça amène beaucoup d'instabilité parce qu'on ne sait pas dialoguer. Et très souvent, au bout d'un moment, la tension, on va la résoudre, on a trouvé la solution. C'est toi qui es un emmerdeur ou c'est toi qui es une névrosée. Alors qu'en définitive, je crois qu'il faudrait apprendre à dialoguer. Et ça, ça devrait être, tiens, je le rappelle souvent quand je viens à l'émission, il devrait y avoir une éducation à la sexualité. C'est d'abord d'apprendre le dialogue, notamment dans les couples hétéros, qu'on essaie de comprendre la façon dont résonne ou dont que perçoit l'autre.
Éric Widmer, alors, face aux difficultés, comment réagissent les couples suite à vos enquêtes?
Je dirais que certains mettent l'accent sur cette négociation permanente et je concours à ce qui vient d'être dit par Philippe. Ce modèle-là de négociation permanente est coûteux, il demande des ressources, notamment financières, culturelles, de réseau social. Quand on n'a pas de ressources, qu'est-ce qu'on peut négocier ? Donc c'est un modèle qui se développe davantage chez les personnes relativement privilégiées.
Et c'est ce que tu vois, dans ce type de couple, ils se séparent plus que les autres.
Voilà, parce que cette négociation permanente est compliquée et est rendue d'autant plus compliquée qu'il y a des enfants. Parce que là, la négociation se fait plus à deux, mais à trois, à quatre, à cinq, et s'il faut tout le temps négocier, effectivement, la vie familiale devient impossible. Donc, mieux vaut peut-être, finalement, dans les premières années de couple, se mettre d'accord sur un ensemble de normes, de règles et de valeurs fondamentales, et, sauf modification importante de l'environnement, rester assez proche de ces normes et de ces valeurs.
Alors, à la lumière justement de vos travaux, est-ce que d'abord un couple peut changer ensemble ou est-ce que la plupart du temps, les gens se séparent pour vivre autre chose?
Alors, les couples évoluent. Je pense que les couples qui durent, d'après notre étude, soit restent finalement sur un modèle compagnonnage, bastion, cocon qu'ils ont développé dès les premières années du couple, soit passent d'un modèle association, voire parallèle à un modèle davantage compagnonnage. Il est difficile de rester sur la durée dans un modèle associatif mettant l'accent sur cette négociation permanente, cette ouverture et cette égalité de genre portée comme un principe.
Mais ça paraît paradoxal parce que c'est aussi finalement la tranquillité qui tue aussi beaucoup les couples, non ? Et l'ennui qui s'installe dans une forme comme ça de non-négociation et de cocon précisément.
Alors, il faut distinguer, comme l'a dit Philippe, l'amour-passion et l'amour conjugal. Je ne pense pas qu'on puisse aimer tout à fait de la même manière. Mais ça, c'est une question qui doit être posée davantage aux psychanalystes, aux psychologues qu'aux sociologues que je suis.
C'est le sociologue qui se défausse.
Ouais. Voilà. Alors, sur la sexualité, que disent vos enquêtes, justement, sur des couples, justement, qui sont ensemble depuis très longtemps? Parce que c'est intéressant aussi de savoir comment vivent deux corps ensemble.
Alors, ce qui est fascinant du point de vue de ces styles d'interaction, et si on reprend les deux principaux, les deux plus clairs, le bastion et l'association dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est qu'ils offrent des résultats très paradoxaux du point de vue de la sexualité. On retrouve un désir sexuel beaucoup plus affirmé dans le couple association, pour le partenaire, que dans le couple bastion. Mais paradoxalement, une satisfaction sexuelle bien moindre. Donc, on a affaire à des styles d'interaction de couple qui produisent un rapport à la sexualité très différent. La sexualité dans le couple bastion, elle est là pour renforcer le couple, pour renforcer la famille, pour faire passer le couple à la famille, pour avoir des enfants, pour sanctifier le couple. La sexualité a un sens totalement différent dans le couple association. Elle est vraiment associée, ou elle a comme fonction principale la réalisation individuelle.
Philippe Bruno, sur la sexualité des couples qui durent.
Mais oui, parce que je trouve passionnant, alors je vais le souligner, cette idée de style conjugal. Nous sommes tous, quelques couples que l'on vive, on est dans des styles conjugaux. Et ce style conjugal a aussi un lien avec la sexualité, certainement par les exigences qu'on y met. Et dans le couple bastion qui est traditionnel, qui est refermé sur lui-même, eh bien, il y a Il n'y a pas une très grande exigence sexuelle. C'est pour ça qu'il y a de la satisfaction. Les couples associations, compagnons, c'est-à-dire des couples très modernes, qui sont ouverts aux autres, mais ils ont une telle exigence sexuelle que la plupart du temps, ils sont déçus. C'est ce qui montre le nombre de séparations importantes. Je pense que ça vient en grande partie de là.
Céline nous dit « Je suis en couple depuis plus de 20 ans avec ses hauts et ses bas, mais après un passage extrêmement difficile, je me demandais si j'allais me séparer ou non de mon mari. Et là, certains amis à qui je m'étais confié me disaient « Pas vous !» C'est une extrême pression que d'entendre cela. » C'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure. Finalement,
oui, et puis alors il y a une autre chose, un conseil à tous les auditeurs, auditrices, demandez à vos amis si vous voulez, mais n'écoutez rien de ce qu'ils vous disent, ils ne vous parlent pas de vous, ils parlent d'eux.
Éric Widmer.
Oui, c'est à nouveau l'importance du réseau d'amitié et de parenté pour le couple. Vraiment, la dynamique conjugale s'enrichisse ou au contraire sont mises en danger par l'interférence de ces tierces parties dont il faudra, à mon avis, davantage tenir compte dans les cabinets de thérapie.
Allez, donc ce livre, publié en 2008, « Mesures et démesures du couple, les cohésions, crises et résilience dans la vie des couples », c'est à la petite bibliothèque de chez Payot. Donc maintenant, il faut vous mettre au boulot et puis nous écrire un autre ouvrage pour réactualiser justement ces données, parce qu'il y a des nouveaux dans cette science du couple, on peut dire les choses comme ça, Philippe Bruneau. Et puis on peut renvoyer également à « Lettre d'amour secret des amants », c'est aux éditions Esprit du Temps, publié il y a quelques semaines à peine, Philippe Bruneau. Merci beaucoup à tous les deux et à bientôt Philippe,
avec
on se retrouve le mois prochain.
La science grand format, en partenariat avec France 5.
Et oui, car nous sommes mercredi, et chaque mercredi, France 5 vous propose cette science en grand format à 20h45, avec au programme ce soir un énorme crash. Bonjour Christophe Gascard, bonjour Christophe.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes journaliste à France Info, mais vous êtes également rédacteur en chef de ce documentaire Plane Crash, produit par Shine France. Alors vous revenez sur l'une des expériences les plus importantes au monde de l'aviation. En quoi a consisté l'expérience exactement, Christophe?
Eh bien tout simplement à faire écraser délibérément un Boeing 727. Rien que ça, dans le désert mexicain. Ouais. Mathieu, cela ne s'était jamais fait d'une telle manière. C'est près de 2 millions de dollars qui ont été investis dans la préparation et la mise au point de ce crash test. Et vous le verrez dans ce documentaire ce soir, c'est d'une envergure beaucoup plus spectaculaire que ceux pratiqués couramment dans l'industrie automobile. C'est un vieux Boeing 727 en fin de course, remisé dans un hangar que l'on a choisi de condamner. Et rarement, un crash d'avion aura été suivi avec autant de précision par autant de caméras.
Extrait de ce documentaire, Christophe, à voir ce soir.
C'est très important pour les proches ainsi que pour les voyageurs de comprendre les causes d'un crash et de communiquer là-dessus. Ça fait partie de notre travail.
Cette fois, le rôle d'Anne est de conseiller l'équipe. Son objectif est d'imaginer le meilleur crash possible qui permettra de récolter un maximum de données scientifiques. Dans sa longue carrière, ce sera la première fois qu'elle sera témoin d'un crash aérien en direct.
Nous aimerions que l'avion ne soit pas entièrement détruit. Nous ne voulons pas un atterrissage normal. Nous voulons qu'il soit plus grave que d'habitude, sans pour autant que l'avion soit pulvérisé. Parce que sinon, nous aurions tout perdu.
Voilà, c'est ça le but donc Christophe, c'est que vraiment cette expérience puisse donner des informations précieuses pour améliorer la sécurité des avions.
Oui, effectivement, c'était tout simplement d'observer de l'intérieur les phénomènes en action pendant l'accident et leurs conséquences sur les passagers. Alors je vous rassure Mathieu, ce sont des mannequins bien entendu, personne n'a été blessé pendant l'expérience, les pilotes, eh bien ils ont sauté en parachute juste avant l'impact.
Ah oui, quand même bord,
oui,
et les équipes aussi de cadreurs alors.
Il y avait des équipes de cadreurs, il y avait des caméras tout à l'intérieur, un dispositif ultra perfectionné qui a été installé. Et ces fameux mannequins étaient équipés à la fois de caméras, mais de multi-capteurs qui étaient disposés à des endroits stratégiques. Et donc, dans ce documentaire, eh bien, on vous montre tout, justement. À la fois la préparation avec les caméramans, le crash, mais aussi les analyses qui ont été faites par des experts et des scientifiques.
Eh bien, donc, c'est à voir ce soir, Christophe Gascard, avec donc Plane Crash. C'est à 20h45 sur France 5, dans cette science en grand format, désormais, donc tous les mercredis. Merci beaucoup à vous.
Merci.
À bientôt, Christophe. Fabrice Drouel, bonjour.
Bonjour, Mathieu Vidal.
Affaires sensibles dans un instant. Qu'est-ce qu'on va expérimenter avec vous?
Rien. On va s'intéresser à une histoire de paquebot détourné en 1961 par un groupe. Alors, vous allez me dire, un groupe de quoi? Ben, je vous le dirai pas.
De Pieds-Nyclés? Non.
Non, parce que ce serait déflorer l'histoire. Et notre invité sera Yves Léonard, professeur, historien spécialiste du Portugal. Pourquoi le Portugal? Parce que c'est un indice. Vous n'en saurez pas plus.
Merci, monsieur. Eh bien, faut rester avec vous. Vous avez le sens du teasing. À tout à l'heure.